Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Frédéric Martin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui vient nous parler donc de son premier roman, mais donc ce n'est pas son premier livre, qui s'appelle Femmes vacantes, édité chez Pleine Page, une maison d'édition bordelaise dont elle nous parlera dans un petit instant. Alors, comme à l'accoutumée, quelques petites infos avant de passer à mon invité. Donc, tout d'abord, une rencontre avec le prix Renaudot de 2007. Vous le savez, c'est Daniel Pénac pour son dernier roman « Chagrin d'école ». Alors, il sera au TNT dans la grande salle le samedi 17 novembre à 16h. Donc, si vous avez envie de rencontrer cet auteur qui a déjà pas mal de succès à son actif, voilà, venez le rencontrer ce samedi à 16h au TNT. Et puis toujours samedi 17 novembre à 16h cette fois-ci, et c'est à la médiathèque José Cabanis, nous avons un spectacle, enfin une lecture bilingue, Mémoire d'une saison, voilà, un spectacle de théâtre, de danse et de musique sur des poèmes d'Arthur Rimbaud. Donc je vous invite à venir au grand auditorium qui est au rez-de-jardin de la médiathèque et l'entrée est libre et gratuite, c'est samedi 17 novembre à 16h. Et puis je continue avec le dimanche 18, on va dans l'ordre du calendrier, à Haute-Rive. Qu'est-ce qu'il se passe à Haute-Rive? Eh bien, il y a Contes et Châtaignes. Et oui, c'est l'époque des châtaignes. Donc le principe de Contes et Châtaignes est simple et généreux. Il y a des éditeurs comme La Vague Verte, Le Griffon Bleu, on connaît Didier Debord, celui qui dirige Le Griffon Bleu, maison d'édition donc pour enfants. Et Où sont les enfants? Justement, une maison d'édition également. Donc ce dernier propose aux enfants de devenir les héros de leurs livres en endossant les costumes et en posant dans le décor du livre, imprimé sur place et avec le prénom de l'enfant. Alors il y aura des auteurs bien sûr comme Marie Milizou, il y aura aussi Annie Joy, il y aura aussi Bruno Volant, Didier Debord lui-même évidemment, et puis des illustrateurs comme Birgit Kilian et puis Monique Mazarguil pour dédicacer les ouvrages, mais aussi des conteurs pour distraire les petits et puis les grands aussi, hein, les parents. Et puis alors pourquoi c'est généreux cette action à Haute-Rive? Eh bien tout simplement parce que les éditeurs reverseront une partie de leurs recettes à l'association APECO, c'est l'association des parents d'enfants cancéreux d'Occitanie, pour soutenir les enfants et leurs parents concernés par ce douloureux problème. Et en outre, l'association Coquelicot, qui organise cette manifestation, vous propose des châtaignes, bien sûr, mais aussi des crêpes, des gaufres, des jus de fruits, du cidre. Et l'intégralité de la recette sera, elle aussi, reversée à l'APECO. Donc le lieu, je vous le disais, c'est à Haute-Rive, c'est au Belvédère, et c'est au bord de l'Ariège, en face de la Poste. Alors c'est dimanche 18 novembre. Toute la journée, je vous invite vraiment à y aller parce que non seulement voilà, en famille, ça sera sympathique et puis c'est vraiment pour une bonne cause, comme on dit. Ensuite, la librairie de la Renaissance, voilà, nous y venons. Alors, fête ses 60 printemps ce week-end. Alors, on rappelle que c'est une librairie qui a été créée, donc, bien sûr, il y a 60 ans, donc par des écrivains résistants. C'est faut ça. Quand même le souligner, donc c'est quand même un monument à Toulouse.
Et cette qui en a gardé l'esprit de la
et
résistance.
Et qui en a gardé l'esprit. Et d'ailleurs, Frédéric, vous y serez ce week-end, samedi et dimanche.
17 et 18 voilà, samedi 17 novembre, et voilà, pour accompagner mes amis de la Renaissance et pour signer mes livres avec bien d'autres auteurs.
Voilà, de la région oui. Qu'on connaît. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, l'accès est libre.
L'accès est libre,
gratuit,
vous
voilà,
rencontrerez de vrais libraires engagés, motivés, joyeux et festifs.
Voilà, donc ce week-end, donc on rappelle l'adresse, c'est 1, pardon, Allée Marc Saint-Saëns, hein,
c'est ça. C'est vers le terminus du métro Basso-Cambo.
D'accord, terminus de Basso-Cambo. Donc c'est ce week-end, la librairie La Renaissance, donc fête ses 60 ans, il faut le souligner. Et donc il y aura plein d'auteurs, dont Frédéric Martin. Et puis je termine cette petite page d'info avec mercredi 21 novembre, mercredi prochain à 16h, à la médiathèque des enfants. Elle organise, la médiathèque jeunesse organise une heure de conte qui sera interprétée en langue des signes par Jean-François Piquet de l'association ACTS et qui comptera donc en langue des signes en collaboration avec une bibliothécaire jeunesse donc de la médiathèque. Et cette animation tout public à partir de 5 ans, pour les enfants à partir de 5 ans, est destinée bien sûr aux sourds et aux malentendants, mais aussi aux entendants. Donc n'hésitez pas à venir pour cette heure de conte en langage des signes. Donc c'est au Piccolo Teatro, au Red Jardin de la médiathèque José Cabanis, et c'est mercredi prochain, 21 novembre, à 16h.
Page à page, Claire Ambil.
Voilà les petites infos de ce jeudi 15 novembre. Alors maintenant, je me tourne vers Frédéric. Bon, on va te présenter à nouveau. Bon, tu es déjà venu, bien sûr, mais bon, tu travailles et tu vis dans la région toulousaine.
Absolument.
Tu animes des ateliers d'écriture.
Oui.
Et puis, tu donnes des lectures publiques également.
Mmh. Oui.
Voilà, des fois même en musique.
Notamment deux lectures. Oui, une lecture musicale sur des musiques originales et accompagnée par Christophe Honnold, piano et accordéon. Et une lecture croisée avec Hélène Dufaux entre son roman Combat aux éditions Gallimard et Femmes vacantes, oui. Le mien aux éditions Pleine Page. Mmh. On a donné cette lecture à la salle Palombo de Saint-Jean et on va la donner le 8 décembre à 16h à la librairie de la Renaissance, encore elle. Et donc, la librairie a une grande salle qui peut vous accueillir. L'entrée reste libre et gratuite. Et on espère que vous y viendrez nombreux.
Oui, donc voilà, tu retourneras à la Renaissance le 8 décembre. Mais bon, là, ce ne sera plus les 60 ans, ça sera dans un autre cadre.
Ce sera dans un autre cadre, tout
D'accord.
à fait.
Et bon, tu es membre de plusieurs jurys également,
oui.
Parce que le CROUS.
Je suis présidente du concours de nouvelles du CROUS de Toulouse. Et puis je suis à l'Encrier renversé à Castres. Je suis au prix du jeune écrivain à Muret et aussi au prix de la francophonie.
Oui, donc voilà, l'écriture a une place très importante
dans ma vie, oui.
Frédéric. Et donc dans les livres, bien sûr, je disais, c'est le premier roman, Femmes vacantes, mais ce n'est pas le premier livre, puisqu'il y avait eu Zéro le monde, un livre pour adolescents un peu.
Un roman jeunesse. Aux éditions Thierry Magnier.
Voilà, avec Dominique, le personnage principal.
Qui avait beaucoup plu à ta fille.
Oui. Et puis ensuite, il y avait eu Les Chardes du silence. Dont tu as reçu le prix Prométhée.
C'était le premier, Les Chars du silence. Mmh.
Ah, d'accord.
Aux éditions du Rocher.
Aux éditions du Rocher, donc un recueil de nouvelles assez percutantes.
Qui avait eu le prix Prométhée.
Voilà, le prix Prométhée. Et puis l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, Papier du sang.
Fin 2005, début 2006. Voilà, ouais, 2006. Papier du sang aux éditions NEB. Donc prose, poétique et poème, qui est le livre dont je parlais tout à l'heure et autour duquel je fais une lecture musicale avec Christophe Honnold.
Et une nouvelle plus particulière que tu mets en musique, enfin que tu lis pour.
Je lis des extraits du livre et plus particulièrement la lettre afghane.
Ah oui, d'ailleurs c'est ce que tu avais lu quand tu étais venue ici à Paris Page. Donc voilà, et là c'est donc le premier roman. Donc passer recueil de nouvelles à roman, ça doit être un petit peu, c'est forcément différent. C'est un changement qui est venu comme ça ou que
Non.
Ça faisait longtemps que tu avais envie d'écrire une histoire avec un début, une fin, enfin un milieu et une fin.
Mais tu sais, dans une nouvelle, il y a un début, un milieu, une fin aussi.
Oui, et c'est plus... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... Oui. Non, mais je veux dire, c'est plus
condensé.
Plus condensé. Là, c'est bon.
En réalité, le roman m'a toujours interpellée. Mais comme beaucoup de nouvellistes, je faisais ce que j'appelle le complexe de la longueur. Donc, on peut pendant longtemps croire qu'on n'est pas capable d'écrire sous une autre forme. Et puis, le fait d'écrire Zéro le monde, qui est déjà un roman, mais par nouvelle, m'a permis de franchir le cap de la longueur. Et naturellement, Femmes vacantes s'est imposée parce que c'est un livre qui a mis beaucoup de temps à s'écrire et qui nécessitait de l'espace. Je ne pouvais pas dire dans Femmes vacantes ce que j'avais à dire dans les formats que j'avais utilisés jusqu'à présent.
Oui, en nouvelle, quoi.
Voilà. Donc, en réalité, la langue, c'est toujours la même et la forme dépend du contenu. Le fond et la forme sont indissociables en écriture, pour moi.
Moi, j'ai beaucoup aimé ton livre, Femme vacante. Quand j'ai refermé le livre, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la phrase « se perdre pour réussir à se retrouver ».
C'est ça. Voilà. C'est un beau résumé.
Oui, c'est un résumé, vraiment. C'est vraiment un beau résumé du livre. Ce qui m'est venu à l'esprit dès que j'ai eu refermé. Donc, c'est un livre qui fait quand même 143 pages. C'est quand même pas un petit roman, c'est quand même une taille, voilà.
Oui, c'est pas non plus un roman fleuve.
C'est pas un roman fleuve dans le sens où, bon, c'est puissant à chaque page, on peut pas dire que c'est un roman qui glisse comme ça.
De toute façon, je pense que je suis plus sur une écriture de l'intensité, et donc, bien sûr, ça prendra jamais 500 pages.
500 pages, on s'y perdrait, peut-être.
Oui, moi aussi, sans doute. on est sur un roman assez contemporain dans sa forme.
On est dans quelque
chose d'assez contemporain par rapport aux grandes sagas sociales que les Américains peuvent écrire. On est sur un roman très contemporain, assez français dans sa manière de fonctionner.
C'est un roman donc de femme, écrit par une femme, mais pas que pour les femmes sûrement. Les hommes peuvent le lire également.
Alors moi, je suis très surprise, tu vois, parce que bien sûr, quand ce livre a été écrit, je me suis dit, c'est un roman qui va intéresser beaucoup de femmes ou qui va toucher beaucoup de femmes.
Est-ce qu'on s'y retrouve ?
Oui.
Forcément, Anna, même si on va raconter un petit peu l'histoire succinctement, mais on s'y retrouve de toute façon.
On est sur quelque chose d'assez universel, universel qui est l'amour, pour ne pas le nommer. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? Mais je suis surprise parce que beaucoup d'hommes l'ont lu et m'ont fait un retour indiquant qu'ils s'y retrouvaient eux aussi complètement. D'abord, de deux manières. D'abord parce que ça leur donne accès à l'intimité d'une femme. Mm-hmm. Ça leur permet de comprendre une femme de l'intérieur. Et ensuite...
Ce qui n'est pas simple.
Ce qui n'est pas simple non plus. Mais accéder à l'intériorité d'un homme non plus n'est pas simple.
Non.
Et ensuite... on se rend compte qu'il y a un lieu chez l'homme et la femme qui est un lieu commun, non pas un lieu commun dans le sens qui est un endroit commun où ils ressentent la même chose. Et je me suis dit, c'est pour ça que les hommes et les femmes peuvent à un moment donné s'entendre et s'aimer, c'est parce que quelque part en eux, au-delà de leur apparence et de leur identité sexuelle, l'amour est vécu de la même manière. Très profondément, il est vécu de la même manière. Et donc, c'est un livre qui touche autant les hommes que les femmes, à ma grande surprise. Et ça me prouve à moi qu'il a atteint une sorte d'universalité, qu'il est allé suffisamment profondément pour transcender les genres.
Oui, parce qu'en plus, c'est très juste, tout ce que tu écris. Mais en plus, c'est très, très bien écrit, le dire. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié la puissance des mots, des phrases, le ton juste et tout. J'aime beaucoup. Donc, c'est très réel. Et puis, ça nous plonge vraiment en nous-mêmes. Ça nous interpelle. Ça ne peut pas laisser indifférent un livre comme ça. On est obligé de se dire quelque chose à la fin du livre, de ressentir une émotion, enfin, de ressentir quelque chose. Pour nous, les femmes, bon, mais peut-être aussi pour les hommes, certainement. Et puis, bon, même, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment une véritable mise à nu de la femme, quoi. La femme est déshabillée, déshabillée, vraiment mise à nu dans ce livre. C'est un hommage aussi, quelque part,
absolument.
À la femme.
C'est absolument un hommage à la femme, c'est vrai.
Et donc les personnages, on va les dire un petit peu. Donc il y a Alice, le personnage principal, Laurent,
son amant.
Voilà, Adèle.
La vieille dame qu'elle rencontre sur le quai de la gare, et Julien,
et puis ses trois enfants.
Et les trois enfants, qui ne sont pas nommés, mais...
Mais il y a Julien, c'est son mari. Et voilà, il y a une fille et deux garçons enfants. Puis le lieu, le quai de la gare, j'ai trouvé que c'est très symbolique.
Bien sûr.
Les départs, les arrivées, l'attente, la foule, donc les autres. Enfin, je veux dire, c'est... Les gares, il se passe toujours plein de choses.
Il se passe toujours plein de choses dans les gares, c'est vrai.
Et on va lire, je vais lire la quatrième de couverture, et puis avant de passer un petit peu plus loin dans le livre, on écoutera peut-être quelque chose.
Oui.
On fera une petite pause musicale. Mais je lis la quatrième de couverture pour
Vas-y.
Donner une idée un petit peu. Alors, Alice a quitté son mari et ses trois enfants pour suivre un homme. L'histoire ne dure pas, elle se retrouve seule, déchirée. C'est dans la rencontre avec Adèle et son lourd secret qu'Alice affrontera une réalité. Être amoureuse est différent d'aimer. Oui, c'est tout de
c'est tout
toute
à fait
la symbolique
ça.
Du problème, voilà. Donc
c'est la grande confusion aujourd'hui, c'est de croire quand on est amoureuse qu'on aime, ce qui peut-être n'a rien à voir même quelquefois.
Oui,
quelquefois.
Hein. Quelquefois, bon après.
On peut aussi aimer et être amoureuse en même temps, mais
oui.
Mais bien souvent, être amoureuse n'est pas forcément synonyme d'aimer.
Alors,
on va écouter un groupe de rock français. Je vous demande, amis auditeurs, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Ils s'appellent Rue Rouge. Ils habitent dans notre région. C'est un groupe de rock français qui compose, écrit et fait tout lui-même. Leur premier disque est en vente chez tous les bons disquaires et s'il n'est pas en vente, il faut le commander pour les soutenir. Ils s'appellent Rue Rouge comme le groupe et j'ai choisi de vous faire écouter, le chanteur s'appelle Vincent Pérez. J'ai choisi de vous faire écouter parce qu'ils nous font des grands morceaux dans la tradition française. J'ai choisi de vous faire écouter une version rue rougienne de L'homme à la moto.
Spéciale dédicace à tous les motards, à tous les piafs de la rue. Je t'aime, il arrive une petite amie, l'or de Marilou. On apprenait en pitié, puis l'enfant de son âge. Quand tout le monde sait rien qu'il va être dans le coup, ce chien de breton bien l'avantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aile sous le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, il semait la terreur dans toute la région.
Furent perdus, ses larmes pareillement dans le.
De la machine et du tuyau, les sabrements, du monde est comme un diable avec des flammes plein les yeux. Quand on passe un joli mot, ça fait comme un éclair de feu, une locomotive qui partait vers le midi. Et quand on ramassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, avec un air, avec un air.
Page à page, Claire Ambil.
Et oui, vous revoici dans votre émission Page à page après avoir écouté Rue Rouge, donc
Que vous pourrez voir en février au Bijou, mais guettez-les parce qu'ils sont souvent en concert dans la région et ailleurs même.
Donc au Bijou en février.
Rue Rouge.
Rue Rouge, voilà, un groupe voilà que Frédéric Martin affectionne particulièrement, une chanson très rock de L'homme à la moto,
une reprise,
ouais. Voilà, tout à fait. Donc on en était à Alice, donc voilà, qui a quitté son mari et ses enfants pour suivre un homme. Et puis finalement, cet homme va la laisser. Et donc, il va se retrouver donc seul. Donc, le thème de la solitude y est quand même et une remise en question, on va dire. Oui. Un tas de questionnements, d'aller plonger au plus profond d'elle-même.
Oui, c'est l'objet du titre, hein, femme vacante. La vacance dans le sens, le vide. Une femme, vide.
Vide. Mais après, elle retrouve... Enfin, on ne va pas raconter l'histoire, mais Adèle est un personnage très important qui va lui apporter beaucoup de choses.
Oui, on ne peut pas écrire tout un roman sur une femme vide et qui resterait vide.
Voilà, donc, après femme vacante, on peut se dire qu'elle a atteint femme libre aussi, quoi. À la fin,
Ne raconte pas la fin.
Non, je raconte pas la fin. Non, mais il y a beaucoup de thèmes dans Sylvie. L'amour, la solitude, la femme par rapport à la mère, hein, aussi. Je pense que là, les femmes peuvent s'y retrouver. Enfin, surtout les femmes en plus qui ont des enfants, qui sont à la fois femmes et mères, parce que on s'y retrouve forcément et ça rassure. De se dire que on a peut-être des fois des désirs d'être plus femme ou plus mère, et puis des fois on culpabilise. Avec ce livre, on se dit je suis pas la seule à penser des choses comme ça, ou à éprouver des choses comme ça.
Pas du tout.
Et c'est très rassurant, je trouve. Et puis il y a l'enfance aussi, parce que l'enfance, c'est un peu le point de départ après de la vie d'adulte.
C'est ce qui conditionne l'adulte que nous serons par la suite. Hein. Donc, nous vivons
important.
Toujours avec notre enfant personnel, celui qui ne nous quitte jamais.
Voilà, le petit garçon, la petite fille qui est encore en nous, jusqu'à la fin. Tout à fait. Puis les contradictions, bien sûr, parce que une femme, c'est plein de contradictions.
Un être humain est pétri de contradictions.
Même les hommes.
Mais bien sûr, je suis persuadée que les hommes sont aussi pétris de contradictions.
Ça se voit peut-être moins.
Oui, c'est une manière différente de le vivre. Les femmes sont certainement plus extraverties, plus visibles à l'œil nu.
Plus prévisibles.
Oui. Non, pas plus prévisible, mais plus transparente, dans le sens qu'elles ne cherchent pas forcément à cacher leurs émotions.
Oui, tout à fait.
Alors que les hommes sont plus imperméables,
tout à fait.
Opaques.
Oui, c'est vrai.
Sans tomber dans le cliché, bien sûr.
Non. Et puis la liberté, bien sûr, le thème de la liberté, parce que
Oui, pour moi, la seule liberté, c'est la liberté intérieure. Il n'y a pas d'autre liberté que celle-là.
Être libre en soi-même.
Intérieurement.
C'est ça. Et c'est un roman que tu as dédié à ta maman.
Oui, à ma maman Elisabeth.
Voilà. D'ailleurs, une très belle, on peut le dire, à Elisabeth.
À ma mère Elisabeth, qui se tient devant la vie comme une reine.
Voilà, j'ai trouvé ça très, 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 très beau. Et puis, donc, ce livre est illustré par une photo d'une femme, qui est une photo de Jean-Luc Haribeau, qu'on connaît bien. Oui. Voilà, donc, en page.
Mon ami Jean-Luc Haribeau, qui, en plus d'être poète, est aussi photographe.
Une superbe photo.
M'a donné une superbe photo pour la couverture de mon livre.
Je trouve qu'elle correspond bien au livre. La photo cadre bien avec le contenu du roman.
C'est une photo de la comédienne toulousaine Marie Dilliès. Nous sommes entre gens de bonne compagnie.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut te demander de nous faire un petit brin de lecture pour donner un peu le ton de ce fameux roman ?
Je vais vous donner un passage qui est au début du roman, dans les 40 premières pages. Je sais pourquoi je reviens m'échouer sur ce quai sans désarmer. À cause de ce dernier regard, à cause du vide que je nourris depuis, pour le mépris, certainement. C'est pourtant un des sentiments les plus pénibles à éprouver. Ça s'installe sans qu'on s'en aperçoive et après, impossible de le déloger. On le vire d'un côté, il revient de l'autre, un vrai représentant de commerce. Mépriser celui qu'on a aimé tue quelque chose en soi. Je te méprise pour l'image que je me suis forgée et à laquelle tu refuses obstinément d'adhérer. Je te méprise pour tout ce que tu n'as pas su réaliser, combler mes manques, augmenter mon courage, rassurer l'éternelle petite fille en moi. Je te méprise parce que tu ne me corresponds pas, ou au contraire, parce que tu me ressembles trop. Je te méprise de refléter ainsi en miroir la lâcheté, la paresse, la sottise, l'avidité et la peur imbécile qui sont aussi en moi. De la sorte, je crache sur ma partie basse, celle dont je ne puis me délester malgré la haine et la colère qu'elle suscite en moi quand je suis contrainte de l'affronter. Alors, quand je viens dans cette gare, quand je me plante sur ce quai pour rejouer le drame de ma répudiation, je sens bouger quelque chose enfin. Je peux encore me décharger sur toi de ce qui m'épouvante et m'enraciner quelque part. Au quotidien, on s'use l'un contre l'autre, on s'exalte plus rarement. Tu n'as que ce que tu mérites. Mais qui voudrait valoir aussi peu, aussi bas? Au jour le jour, nous n'avions plus de secrets l'un pour l'autre et nous nous sommes révélés pour ce que nous étions, petites personnes, qui se veulent plus grandes qu'il ne leur est possible. L'exigence est la plus haute forme de l'orgueil. Chacun de nous voulait plier l'autre par la seule force de sa volonté au rang qu'il avait choisi. Bien sûr, ça n'a pas marché. Au bout de quelques mois de lutte, après des larmes inutiles et l'inévitable déchéance privée, on a sorti le mépris comme dernière cartouche. Il n'y a rien à faire avec un type comme toi. Tu as fait la preuve que tu n'étais pas capable de réaliser mieux avec un autre. Nous avions fini par nous parler comme ces gens qui se haïssent sans oser en convenir. Le cynisme, c'est ta dernière arrogance, Alice, celle d'une femme rétrécie à son manque d'envergure. L'ironie, tu ne le sais pas encore, Laurent chéri, l'ironie, c'est l'humour des imbéciles.
Oui, voilà, donc c'était Alice, et puis donc qui parle avec de Laurent. Laurent, enfin qui parle avec Laurent, et puis de ce qu'elle éprouve à ce moment-là pour Laurent, donc son amant qui l'a laissé justement sur ce quai de gare quelques semaines auparavant. Et c'est là qu'elle va rencontrer Adèle, cette dame aussi qui elle aussi.
Apparemment digne, Adèle.
Voilà, et qui elle aussi est sur ce quai de gare pour d'autres raisons.
Avec son chien,
avec son chien. Oui, j'ai adoré le chien. Mais bon, on ne va pas dire pourquoi, parce que c'est un clin d'œil, c'est très...
Oui, on adore le chien, mais on ne dira pas pourquoi.
Non, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture, Frédéric. Et puis donc, je vous demande, voilà, vraiment, ce livre, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est dans tous les magasins de livres.
Il est chez tous les libraires dignes de ce nom. Et s'il n'y est pas, faites comme Rue Rouge, commandez-le.
Oui, vraiment, c'est un livre, il faut vraiment le lire. Vraiment, il est vraiment très fort, très puissant. Et je pense qu'il est soit à lire pour soi-même, soit à offrir au moment de la défaite. Là, c'est peut-être le moment.
Oui.
Ça passe trop vite, Frédéric. Je rannoncerai tes dates. Donc, 1er de décembre à Saint-Lys, 8 décembre, de nouveau la Renaissance, en plus de ce week-end 17 et 18.
Voilà, pour une lecture de Femmes Vacances, justement.
Voilà. Et puis, merci beaucoup.
Merci,
et
Claire.
Et puis, on te retrouvera dans d'autres émissions avec de nouveaux livres.
C'est toujours un plaisir
de venir. Merci à toi, en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine. À d'ici, Ats.